Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Entrer au paradis en habit de gala appelle-t-il les douleurs que le corps a subies ici-bas. Zurbarán, le peintre du siècle d'or espagnol, a surtout représenté des saints et des saintes. Ce sont ces dernières qui attirent votre œil. Florence Delay, vous trouvez dans le pli de leurs robes des roses, évidemment, qui disent leur incroyable résistance et détermination, mais aussi le fil qui vous mène jusqu'à une toilette de votre propre mère au début des années 40 à Paris. Elle admirait le maître couturier espagnol Cristóbal Balenciaga, aussi musicien, silencieux et mystérieux que le peintre de trois siècles son aîné. Voilà pour un livre des temps et des couleurs cousues ensemble, pour ne pas dire des robes. Bonsoir Florence Delay.
Bonsoir.
Votre livre Haute Couture est paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'être là.
De l'autre côté, Zurbarán, il est passé. Il est passé pour peindre les saintes et les martyrs. Musique de chambre, le moins d'effet possible. Pas d'apparition stupéfiante, pas de crucifié nu, mais un ensemble de belles dames impassibles. Théophile Gautier y reconnaissait
les plus délicieuses et romanesques créatures que l'on puisse rêver. On dirait des costumes pour une comédie de Shakespeare.
Mais c'est bien autre chose que la nuit des rois. Jaune d'or, vieux rose, vert mousse, longue robe qui descend jusqu'aux pieds qu'elle cache, elle se dresse dans un espace où il n'y a plus de terre, plus d'arbres, plus de rochers, plus de nuages, rien que le grand désert dont Zurbarán est familier et où cette fois il aime à faire lever les longues surfaces de tissus de couleur, surfaces gonflées, soies cousues, plis et replis de pourpre, costume où jamais une Espagnole ne put reconnaître la mode. Ces vêtements-là habillaient déjà les allégories de la Renaissance à Venise. Et ils réapparaissent, ces vêtements, parce qu'ils ont les rythmes et les surfaces qu'aiment les peintres, parce qu'ils leur permettent de construire des forteresses de tissus.
Des forteresses de tissus, c'est la fin de cette archive de 1988, Florence Delay, avec laquelle on ouvre cet entretien pour nous mettre sur la piste de Zurbarán, ou plus précisément sur la piste d'un choc esthétique que vous décrivez dans ce texte Haute Couture, ce choc qui a lieu dans un musée, lequel, quand et comment ?
C'est une rencontre de jeunesse. Dès le premier voyage à Séville, j'ai été stupéfaite par la suite de ces deux jeunes filles splendides, admirablement vêtues de robes totalement imaginaires, qui ne correspondaient ni au siècle où elles avaient vécu, ni au siècle où Zurbarán a vécu, et par ce détail tout à fait étrange, c'est que chacune tenait un instrument qui contredisait la paix de son visage et l'harmonie de ses vêtements. Alors vous aviez l'une avec une immense épée à la main, l'autre une roue dentée, l'autre des horribles tenailles, l'autre un clou énorme. Et évidemment, j'ai cherché à savoir pourquoi. Et 50 années plus tard, comme je suis assez lente...
Tranquille, on va dire.
Je me suis dit qu'il était temps d'y revenir et de découvrir un peu ces femmes que d'un peintre dont j'admirais immensément l'autre partie de l'œuvre, à savoir ses saints et ses moines. Voilà, je suis revenue donc à cette rencontre de jeunesse.
Est-ce que vous sauriez dire si peut-être le choc des paradoxes entre ce qui en fait se révèle être l'outil de leur propre torture, ces fameux attributs dont vous parlez, Florence Dolez, le choc entre ça et les tissus qui étaient à l'origine de votre admiration, venez chercher quelque chose en vous, de la jeune fille que vous étiez à ce moment-là. Sait-on jamais pourquoi quelque chose nous arrête tant ?
Écoutez, mon plus cher désir, quand j'étais jeune, était de vivre en uniforme. C'est-à-dire de n'avoir pas à songer aux vêtements et de tous les jours avoir les mêmes. L'amour que je portais au tablier du lycée La Fontaine, qui nous rendait tout égal, où on ne montrait pas à bon. Et ensuite, et ce peu de goût pour mes propres vêtements s'accompagnait d'une admiration éperdue pour la coquetterie et la beauté des vêtements de ma mère. Or, comme je le raconte dans ce livre, elle avait évidemment une passion pour Balenciaga. Et elle avait connu ce couturier quand il n'était pas encore célèbre, qu'il avait une maison de couture à Saint-Sébastien, qui est dans le sud-ouest, et nous sommes un peu de là-bas, entre Bayonne et les Landes. Je sais que quand maman est morte, on a ouvert les placards, ma sœur et moi, et on a vu des robes endormies depuis très longtemps, qui étaient les robes du soir, de la période mondaine de ma mère, de mes parents, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a existé. Et toutes ces robes sont parties dans les bras de ma sœur, vers un couturier du Palais Royal qui s'occupe des vêtements vintage. Bon, voilà. Donc, c'est ma mère qui était la coquette. J'ai été stupéfaite et confortée dans ma recherche lorsque j'ai vu finalement que beaucoup d'inventions de Sourbaran, d'inventions de vêtements, de costumes, on les retrouvait chez Balenciaga.
C'est fou quand même.
Ah, c'est fou.
Donc probablement, ce qui arrête votre œil, jeune fille, à Séville, au Musée des Beaux-Arts, c'est une image plus ou moins...
Oui.
Confuse des plis des robes de votre mère.
Bravo. Je ne l'avais pas formulé, mais je pense que vous avez raison.
C'est ce qu'on appelle être ramené au jupon de sa mère. Non, mais c'est fou, c'est-à-dire que ce choc esthétique sur lequel vous revenez 50 ans plus tard, c'est peut-être juste ce que vous reconnaissez. Ça n'efface pas votre admiration pour cette peinture, mais c'est peut-être ça qui se passe.
Ah, sûrement. Sûrement, vous avez raison, parce que l'autre partie de moi ne s'est pas du tout dirigée vers elle. C'était plutôt les Saint-François en oraison,
les moines,
les scènes du réfectoire extraordinaires avec tous ces moines dominicains, en robe blanche. Très longtemps, ça a été pour moi le grand Sourbaran. Et puis, ensuite, quand j'y suis revenue, la peinture pure des étoffes, je veux dire, la façon de restituer les étoffes, qui nous oriente aussi vers une autre suite magnifique de Sourbaran, qui sont les peintures mortes. Il a peint des saints, des saintes et des natures mortes, c'est-à-dire l'humilité des choses, les peaux, qui servent à tous et à tous les jours, les cruches, avec de temps en temps une rose dans un gobelet d'étain. Il a peint magnifiquement, comme son fils aîné d'ailleurs, des citrons sur une assiette. Et finalement, il y a une humilité toute franciscaine dans ses peintures mortes. C'est pas du tout des bouquets, des fleurs, etc. Non, c'est les objets de tous les jours. Et on peut penser qu'il y a une sainteté des objets aussi.
D'ailleurs, j'en reviens à cet archive de 1988, où il était question des déserts dans lesquels sont peintes ces femmes. L'homme qui s'exprimait à la radio nous disait que Zurbaran peint ces êtres dans des formes de désert.
Alors, je ne suis pas d'accord avec cette vision, parce que tous les fonds, elles se détachent toutes sur des fonds presque noirs. Et il n'y a pas de décor derrière elles. C'est peut-être ça qu'il veut
Bien
dire.
Bien sûr, je pense.
Il n'y a pas de décor, il y a un fond noir. Et ce fond noir permet qu'elles se détachent d'une façon presque sculpturale. Et l'atelier où Zurbaran a été apprenti était un atelier de imagineria, c'est-à-dire d'images pieuses et de sculptures. C'est-à-dire, c'était des petites entreprises où on peignait, où on sculptait, et il me semble qu'il y a dans la représentation, dans la face, le relief des plis accentués, ou leur façon de sortir de ce noir, quelque chose de l'ordre de la sculpture.
Et pour terminer peut-être cette introduction avec vous, Florence Delay, parlons de la structure de votre livre. Haute couture sont comme autant de tableaux littéraires, si on veut bien les regarder comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous les avez composés ?
Exactement. Exactement, j'ai voulu faire une petite galerie dont le principe de composition était description d'une robe et la vie qui suivait. Alors, il y en a une quinzaine, j'aurais pu en faire 50, mais je n'ai pas tenu le coup et je pense que ça aurait été trop. C'est difficile. D'abord, c'est très difficile d'écrire et je n'ai aucune facilité d'écrire des vêtements. Mais si j'avais opté pour représenter les robes à côté du texte, je faisais un livre d'art et je ne souhaitais pas du tout faire un livre d'art. Puis de toute façon, il suffit de consulter un site maintenant pour voir apparaître toutes les saintes.
Alors que là, il se passe des choses très très différentes dans votre description du tissu. Vous disiez tout à l'heure, en repassant par les natures mortes de Zurbaran, qu'il y a peut-être une sainteté des objets. Il y a quelque chose de la sainteté de la matière que vous cherchez à atteindre avec les descriptions. La sainteté des tissus, des couleurs, des reflets parfois, de ce qui se cache parfois dans les tissus.
Je pense que vous avez raison. C'est une façon de rendre glorieuses, les étoffes. Et ce faisant, la création même.
Debout de trois quarts, elle penche vers nous un visage grave et tendre. Mais on s'enfouit d'abord dans les plis de sa robe de soie corail, bordée d'un galon doré, alourdi de brocarts et brocatelles, au motif d'artichaut, de pommes de pin, couleur cendre et cannelle. Elle la soulève du bout des doigts comme si c'était chose légère. Le fourreau dessous, dont une manche, du coude au poignet, dépasse de la haute manche serrée par un bijou, est rouge. Il effleure en bas un mocassin noir. Au dos de la robe est greffé un grand nœud de taffetas gris bouffant qui tombe jusqu'à terre. Une abondante chevelure noire la couvre jusqu'à la taille, si abondante qu'un ruban rouge et un collier de perles en retiennent une partie. Sa bouche est toute petite. La lèvre supérieure avance légèrement, comme pour être saisie et embrassée. Mais nous n'osons pas. L'auréole, esquissée au-dessus de sa tête, le diadème posé sur ses cheveux, la splendeur de tout ça, intimide. Elle nous regarde, sérieuse, le visage rose d'émotion. Pourquoi ? C'est le secret du tableau, présent et caché dans les plis de sa robe. La fille de Yahya ibn Ismaël al-Mamoun, émir de Tolède de 1043 à 1075, apprit à lire et à écrire dans le Coran. Adolescente, elle éprouva des doutes et désira connaître les principes de ces chrétiens contre lesquels les morts étaient en guerre. Son père, lui ayant interdit l'accès aux geôles où nombre de moines et de prêtres étaient enfermés, Elle enfreignit l'interdiction et profita de ses absences pour aller visiter les captifs, leur apportant nourriture et médecine. En échange, ils l'instruisirent si bien qu'elle souhaita recevoir le baptême. L'émir, ayant appris que sa fille lui désobéissait, fit semblant de partir à la chasse dont il revint inopinément pour la surprendre sur le chemin des cachots. « Que portez-vous dans votre robe ? » demanda-t-il brutalement. « Des fleurs, » répondit-elle. « Montrez-les-moi. » Cassilda entr'ouvrit craintivement sa robe. Apparut un bouquet de roses. Tel est le secret du tableau de Zurbaran. Un bouquet de roses dans les plis de la robe. Elle tomba malade aussitôt, perdant des flux de sang. L'émir, épouvanté, reconnut le mal dont son épouse, prénommée Cassilda, comme leur fille, était morte. Le premier poème que j'ai traduit de Lorca à 15 ans s'intitulait « Cassilda des colombes obscures ».
Cassilda des colombes obscures. Sur les branches du laurier, j'ai vu deux colombes obscures. L'une était le soleil et l'autre était la lune. Petite voisine, ai-je dit, où donc sera ma sépulture ? Dans ma traîne, a dit le soleil. Dans ma gorge, m'a dit la lune. Et moi qui avançais avec la terre à la ceinture, j'ai vu deux aigles tout de neige et une fille toute nue. L'un était l'autre et la fille n'était personne. Petits aigles, leur ai-je dit, où donc sera ma sépulture ? Dans ma traîne, a dit le soleil. Dans ma gorge, m'a dit la lune. Sur les branches du laurier, j'ai vu les deux colombes nues. L'une était l'autre, et toutes deux n'étaient personne.
Un extrait de votre texte Haute Couture, Florence Delay, et une archive d'une lecture, d'une traduction de Cassilda des colombes obscures, de Federico Garcia Lorca, mais qui n'est pas votre traduction. Dans le livre, vous faites se rejoindre deux passions, celle du regard porté sur le tableau de Zurbaran et celle d'une première traduction. Deux passions, deux gestes qui sont les vôtres, Florence Delay. Comment se rejoignent-elles ces deux passions, la traduction de Garcia Lorca et ce tableau ?
Par un prénom, parce que cette Cassilda que j'ai découvert cette fois-ci pas du tout à Séville et beaucoup plus tard à Madrid, cette Cassilda qui est peut-être une des plus belles saintes, elle est au Thyssen-Bornemisza de Madrid, le prénom est très proche et m'évoquait Cassilda, et c'est le même mot qui en arabe signifie poésie. Et Federico Garcia Lorca, qui était de Grenade et qui a été très très marqué par la lyrique arabo-andalouse, a composé des cassidas et aussi une autre forme poétique arabe qui s'appelle les gacelas. Et voilà, m'est revenu avec Cassilda le souvenir du premier poème que j'ai traduit, du premier volume de Lorca que j'ai tenu entre mes mains et qui était le cadeau de René Char, un grand ami de ma mère, qui m'a offert les œuvres complètes de Federico qui venaient de sortir chez Aguilar en Espagne et qui m'a dit « Prends et traduis ce que tu aimes. » Et je pense que c'est de là, de cette phrase, de cette autorisation, de cette permission qu'est venu mon goût de traduire.
Est-ce que vous soupçonniez, Florence Delay, que l'observation précise et la description des tableaux de Zurbaran allaient vous amener sur autant de chemins de jeunesse ?
Non. Je n'imaginais pas. J'ai été très surprise. Surtout, après avoir fait le portrait de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Sainte Marguerite d'Antioche. Zurbaran a maintes fois représenté ces deux saintes Catherine d'Alexandrie, c'est une histoire extraordinaire. C'est une jeune fille extrêmement savante qui tient tête au pharaon, qui sur ses croyances, et le pharaon furieux fait venir tous les docteurs d'Égypte pour tenir tête au raisonnement de cette jeune personne insolente et insupportable. Et au bout d'un moment, tous les docteurs se taisent, et alors le maître proteste, et ils disent « Elle nous a tous convertis ». Et donc c'est la patronne des philosophes, et donc elle est célèbre par sa science, et Marguerite d'Antioche, elle, était bergère. Or, le fait d'avoir, par hasard, traité ces deux saintes l'une après l'autre, et à ce propos, je voudrais rappeler cette merveilleuse phrase de Théophile Gautier, « Le hasard, c'est peut-être la signature, le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne veut pas signer. » Voilà, le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne veut pas signer. Le hasard a fait que les ayant étudiés l'une après l'autre,
et mis dans votre petite galerie, oui, de livres côte à côte,
me suis aperçu que c'était les deux saintes que Jeanne d'Arc invoquait tout le temps. Et me sont revenus des morceaux du film de Robert Bresson que j'avais tourné à 20 ans, Procès de Jeanne d'Arc, et où on la tanne avec Marguerite et Catherine. On lui dit, mais vous ont-elles parlé? Les avez-vous vus? Vous ont-elles demandé de garder votre virginité? Et voilà, je me suis demandé, alors j'ai rêvé, je me suis dit peut-être que les magnifiques réponses de Jeanne au procès ont été, Jeanne qui était analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire, lui ont été dictées par Catherine d'Alexandrie, la très savante, et le courage lui a été donné par une autre bergère, Marguerite d'Antioche.
Et alors ce hasard, quel que soit le nom ou le pseudonyme qu'on lui donne, il se révèle à vous une fois que le texte est imprimé, que vous avez devant vous les deux textes côte à côte, ou c'est vraiment pendant l'écriture que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de convoquer?
Ah, c'est pendant l'écriture. C'est pendant l'écriture. Et alors ça me rassure beaucoup, parce que quand on est dans la vérité, enfin de la vérité de ce qu'on cherche, enfin, il se crée un champ magnétique. Vous avez dû éprouver ça vous-même en écrivant.
Tout ce dont on a fait son sujet devient attiré à nous comme un aimant.
Vous avez aussi éprouvé ça.
C'est pas le sujet, mais oui.
Oui, mais c'est le sujet. Il se crée un champ magnétique, voilà. Et les choses viennent se poser, un peu miraculeusement d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle que dans la chrétienté.
Quand vous dites être dans sa vérité ou être dans la vérité de ce qu'on cherche, est-ce que vous pouvez préciser un peu, Florence Delay, ça se présente à vous comment dans la création, mais vraiment littéraire pour le coup? Comment est-ce que vous diriez que vous êtes dans la vérité de ce que vous cherchez?
Quand j'entends, quand le texte, quand la page, le paragraphe coule comme une source. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel, même si c'est sophistiqué parfois, mais donne un sentiment que ça ne peut pas être autrement, que les mots sont à la place qu'ils doivent, que ont été choisis comme ils le doivent, et donc à ce moment-là, il y a une sorte de son pur. C'est comme le diapason, le là est là. Et donc on peut passer au paragraphe suivant. De toute façon, moi j'ai un grand défaut, contrairement à pas mal d'amis écrivains, je ne peux avancer que si derrière moi c'est absolument fini. C'est-à-dire si je suis poussé par le paragraphe précédent, mais s'il n'est pas parfait, disons, s'il n'est pas selon mon désir, je ne peux pas avancer. Alors c'est très ennuyeux, parce que ceux qui font plusieurs versions sont, Enfin, on a la joie de se dire, bon, j'ai fini une version, je vois à peu près tout, ont une vision d'ensemble, même si ce n'est pas dans le détail. Or, moi, je n'ai jamais que des détails.
Ça parle aussi de la forme que prennent souvent vos livres, justement, de ces tableaux, de ces textes courts. Finalement, ça correspond à la manière dont vous décrivez votre façon d'avancer, en fait. Les choses sont assez refermées sur elles avant que d'entamer une autre histoire.
Oui, vous avez raison. Je me souviens avoir été très aidée dans le précédent, finalement, sur l'école de Fontainebleau, qui s'appelle, il me semble, Mesdames, par justement la voix que j'essayais d'imiter, qui était celle de Marguerite de Navarre. Or, pour le Sourbaran, je n'avais pas de voix à imiter, et c'est le principe de composition, avec une robe, une vie, qui a été mon guide.
Vous parliez de Jeanne d'Arc et Bresson, écoutons-le.
Il se trouve que je connais l'interprète de Jeanne d'Arc. Florence, comment êtes-vous arrivée à faire que cette jeune fille, qui a probablement une vie intérieure très profonde, a pu donner exactement ce que vous vouliez qu'elle donne, vous? Comment cela s'est-il passé?
Si elle était là, ce serait très intéressant de lui demander. Mais les choses sont venues tout simplement à partir du moment où je ne me trompe pas dans mon choix. Je ne peux que jouer gagnant. Et la personne choisie ne peut que s'apprivoiser à moi comme moi s'apprivoiser à elle. Je veux dire qu'il y a là une espèce d'alliance qui est un peu, mais d'une façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin, un peu comme un personnage de roman avec le romancier.
Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Jurez de dire la vérité.
Je le jure.
Où avez-vous été baptisé?
Dans l'église de Don Rémy.
Qui vous a appris votre croyance?
J'ai appris de ma mère le Paternoster, l'Ave Maria et le Credo.
Dites à Paternoster.
Confessez-moi, je le dirai en confession.
Chez vos parents, que faisiez-vous?
Je travaillais à la maison, je n'allais pas au champ avec les brebis et autres bêtes.
Avez-vous appris quelques métiers?
Oui, à filer et à coudre.
Affilé à coudre, et on lève les sourcils, vous et moi, à Florence Delay. C'est un extrait du procès de Jeanne d'Arc par Bresson. Et juste avant, il disait, et c'est là quand même que c'est assez drôle, l'interpellation de l'archive. Si elle était là, on pourrait lui demander. Alors, vous êtes là, le journaliste disait, vous avez choisi une jeune femme avec certainement une vie intérieure profonde. Comment vous êtes-vous débrouillé pour qu'elle soit la Jeanne d'Arc que vous vouliez? Et Bresson de dire, si Florence Delay était là, il faudrait lui demander. Comment s'est-il débrouillé, Bresson, pour obtenir de vous la Jeanne d'Arc qu'il avait en tête?
À cause d'une indication capitale qu'il m'a donnée, qui était qu'à chaque question du tribunal, j'écoute ce que mes voix m'en disaient. C'est-à-dire de ne pas répondre moi à la question du juge, mais de répondre d'en haut. Ce qui fait qu'il y a toujours un tout petit décalage dans l'échange entre les questions du tribunal ecclésiastique et la réponse. Et cette indication d'écouter en moi ce que mes voix m'en disaient a fait que je ne pensais plus du tout à moi. C'était merveilleux. J'étais en relation avec Sainte Catherine et Sainte Marguerite, si vous voulez, et Monseigneur Saint-Michel, bien sûr, Monsieur Saint-Michel, comme elle dit. C'était une indication très profonde, or il en donnait très peu. Très peu, mais celle-là a été capitale.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux. Répondre d'en haut me renvoie au titre que vous donnez à votre livre, à votre petite galerie, lorsque vous l'appelez haute couture. Alors, avec l'évocation de Balenciaga au début de notre émission, on voit bien à quoi ce haute couture peut faire référence. Mais en vous écoutant là, je me dis que le haute couture peut aussi être une manière de coudre d'en haut.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est le sens double du titre. Le grand couturier, c'est quand même Dieu. Et le couturier des saintes, c'est lui. Et je pense que... Sourbarane a certainement été marqué par la splendeur des processions sévillanes qui traversent la ville, et en particulier pour la fête Dieu. Toute cette richesse, qui est la richesse même des étoffes avec des bijoux, cette richesse est l'idée que se fait la contre-réforme de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, elle la lie au luxe, aux diamants, aux pierres précieuses, à la beauté visible et sophistiquée. Alors évidemment, nous n'épousons plus du tout cette vision de la contre-réforme, Dieu soit loué. Mais je pense que ça explique en partie l'art de la contre-réforme. C'est étrange, parce que l'austérité des tableaux de moines de la vie monastique de Sourbarane sont à l'opposé de ce luxe.
Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elles ont été, comme vous l'écrivez au début de votre livre, tant et tant désirées ?
Je ne sais pas, mais je dois dire que j'ai été captivée de voir finalement que presque chacune a en face de lui, en face d'elle, pardon, un bourreau qui la tourmente parce qu'il ne la baisse pas.
C'est quand même... Ou qu'il l'admire et qu'il est complètement défait devant son savoir, devant sa beauté, oui, devant son imprévisibilité.
Ce sont des très très belles histoires. Alors, elles viennent souvent de la légende dorée de Jacques de Voragine, qui date du XIIIe siècle. Mais ce père dominicain, il appartenait, ne connaissait rien aux saintes d'Espagne ou du Portugal. Donc, je veux dire, elle n'existe pas dans la légende dorée. Alors, j'ai dû me tourner vers d'autres sources pour mes Espagnols, dont Casilda et dont Marina de Aguasantas et d'autres. Mais, vous savez, se mettre en quête de miracles, c'est quand même une chose très agréable. Qui n'existe pas beaucoup de nos jours.
Et se mettre en quête de miracles, pour vous, ça a été de déplier les robes et d'aller voir dans les robes, par exemple, les roses qui apparaissent. C'est l'une des grandes histoires et belles histoires que vous racontez, c'est la manière dont, rosissant des joues car elle est arrêtée en allant mener du pain à des personnes qui en ont besoin, on lui demande ce qu'elle a sous la robe, et cette femme ouvre la robe, ce sont des roses qui en sortent.
Alors, ce miracle des roses qui, moi aussi, me plaît immensément, je me suis rendu compte qu'il était très répandu dans la chrétienté du Moyen-Âge et qu'il était arrivé à beaucoup de femmes qui, quelquefois, en portent le prénom, comme Rosalie, Roseline, Rosalie de Palerme, je crois, Roseline de Provence. Et voilà, là... évidemment, on est plus heureux parce qu'il n'y a pas de supplice à l'horizon, ni de torture, ni d'instrument de torture. Il n'y a que le miracle de la charité. C'est-à-dire, au fond, des jeunes filles, des femmes, poussées par un irrépressible élan de charité, vont porter qui du pain, qui de l'argent aux pauvres. Elles sont surprises par un père ou un époux, un père si ce sont des jeunes filles, un époux si elles ont marié, qui leur dit brutalement « Que portez-vous dans votre robe ?» Alors, elle monte. Et Dieu accomplit le miracle. Change les pains ou l'argent en roses.
Et les roses, ce sont les roses de quoi pour vous, Florence Delay ? De leur désobéissance, de leur détermination, de leur foi ?
Ben, une des légendes l'explique très bien. Le roi dit « Il n'y a pas de roses en janvier. » Elle dit « Je portais des roses à la chapelle. » Il n'y a pas de rose en janvier. Eh oui, mais le céleste jardinier est là pour qu'on cueille des roses en janvier.
Catherine était chrétienne, bidiboum, 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 boum, boum. Catherine était chrétienne, son père ne l'était pas. Ha, 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 ha. Son père ne l'était pas. Son père ne l'était pas. un jour dans sa prière, bidi-boum, 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 boum, boum, un jour dans sa prière, son père la trouva. Ah, 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 son père la trouva, son père la trouva. Que faites-vous, ma fille, bidi-boum, 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 boum, boum, que faites-vous, ma fille, dans cette pose-là? Ah, 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 dans cette pose-là, dans cette pose-là. Je prie le Dieu mon Père, bidi-boum, 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 boum, boum. Je prie le Dieu mon Père que vous ne connaissez pas. Ah, 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 que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Relevez-vous, ma fille, bidi-boum, 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 boum, boum. Relevez-vous, ma fille, sinon l'on vous tuera. Ah, 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 sinon l'on vous tuera, sinon l'on vous tuera. Tuez-moi donc mon père, bidi-boum, 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 boum, boum. Tuez-moi donc mon père, mais je ne faillirai pas. Ah, 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 mais je ne faillirai pas, mais je ne faillirai pas. Le père dans sa colère, bidi-boum, 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 boum, boum. Le père dans sa colère, d'un glaive la transperça. Ah, 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 d'un glaive la transperça, d'un glaive la transperça. Les anges descendirent, bidi-boum, 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 boum, boum. Les anges descendirent, chantant l'Alléluia. Ah, 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 chantant l'Alléluia, chantant l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les démons accoururent, bidi-boum, 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 boum, boum. Les démons accoururent et enfourchèrent le roi. Ah, 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 ah. Et enfourchèrent le roi, et enfourchèrent le roi. Ma chanson est trop triste, bidi-boum, 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 boum, boum. Ma chanson est trop triste, je la recommencerai pas. Ah, 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 je la recommencerai pas, je la recommencerai pas.
Et en fait, si, elles se reprennent, ces chansons-là. Florence Delay, on entendait « Tête de chien, le martyr de Sainte-Catherine, la ronde, infanticide », d'une part pour nous faire découvrir, moi je ne connaissais pas ce morceau, et aussi pour souligner le caractère populaire. Vous dites que ce sont des histoires de saintes qui non seulement ont été peintes par Zurbaran, mais aussi ont été racontées, dont celle des Catherines. Je dis « des » parce que vous avez eu en tête de nous rappeler que c'était « une robe, une vie ». Or, pour Catherine, ce sont plusieurs Catherine que vous convoquez, Florence Delay. Je crois que c'est le seul cas où vous parlez de plusieurs Sainte-Catherine.
Alors, Zurbaran ou son atelier ont représenté maintes fois les mêmes saintes. J'ai pris trois Catherine parce que les tableaux sont tellement différents qu'on dirait... sauf l'épée qui les réunit, puisqu'elle a péri par l'épée. Ils sont très très différents, ces tableaux. Et ils posent le problème... des visages et des modèles. Parce que les visages ont une telle individualité qu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit de portraits. Or, il y avait un usage au siècle d'or qu'on appelait retratto, portrait a lo divino, c'est-à-dire portrait en divin... portrait...
Divinisé.
C'est exactement ça. Et une famille pouvait demander à un peintre, par exemple, de faire le portrait de sa fille Catherine.
En Sainte-Catherine.
En Sainte-Catherine. Et donc l'enfant faisait ses dévotions devant sa patronne et pouvait lui demander toutes les vertus qu'elle n'avait pas. Bon. Et ces portraits à lo divino, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, en tout cas pour les Catherine, c'était frappant. Non, j'ai eu à un certain moment une paresse de confronter les tableaux, mais pas là.
De quoi meurt-elle? Vous dites elle meurt de l'épée, mais pourquoi?
Eh bien, c'est toujours parce qu'elles ne veulent pas abdiquer leur foi. Elles ne veulent pas elles ne veulent pas abdiquer leur foi et elles louent tellement, parce que souvent on voit que le gouverneur ou l'officier romain n'en peut plus d'entendre le nom du Christ, il n'en peut plus, je veux dire, c'est, bon. Et Et là, elle le répète, elles disent que c'est leur époux, que c'est à cause de ça qu'elles ne peuvent pas épouser l'amoureux éconduit, ou plutôt l'amoureux est un grand mot pour le désir, pour ce qui les désire finalement. Donc, on les torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais, là aussi, il y a des choses invraisemblables dans la légende dorée. Rien ne parvient à les faire mourir. D'où un enchaînement de supplices, tous plus atroces les uns que les autres, jusqu'à ce que l'épée, le glaive, mette fin à d'autres formes de souffrance plus lentes. C'est très étrange. Et puis ensuite, évidemment, la nature s'en mêle, le volcan a une éruption, des orages éclatent, enfin, la nature manifeste sa compassion pour le supplice enduré par la jeune fille.
Ce qui me renvoie au début de l'introduction de cette émission où je posais la question de savoir si entrer au paradis en habit de gala consolait ou apaisait les souffrances subies par le corps ici-bas, ce que l'on voit dans la galerie que vous fabriquez avec ce livre Haute Couture, ce sont certes des robes, mais des corps de femmes suppliciées, des corps de femmes violentées, des corps de femmes interrogées, poussées dans leur retranchement. On sent que votre attention s'est aussi portée là, Florence Delay.
Alors évidemment, le miracle, c'est que le peintre les a reconstituées entières. Vous voyez Sainte Agathe, qui présente sur un petit plat
ses seins.
Ses deux seins. Mais ils ont été replacés sur son corps. Je veux dire, elle n'a pas la poitrine plate. C'est extraordinaire. Elles sont réparées.
Par la peinture.
Réparées par la peinture et réparées pour entrer au paradis, pour être habillées par son barane.
Donc votre réponse serait oui alors. Entrer en habit de gala au paradis répare la douleur subie par le corps ici-bas.
C'est-à-dire tout est oublié. Tout est oublié.
Vous êtes bien généreuse.
La cruauté des hommes est oubliée. Et il n'y a plus que cette paix étonnante, car quand même ces jeunes filles, ces jeunes femmes, rayonnent de paix et de tranquillité.
Et de sérénité. On entendra tout à l'heure le texte de Sainte Agathe, mais elle présente le visage serein, les deux seins sur un plateau.
Ah oui.
Le mot histoire a deux sens. Ce qui se passe, et personne ne doute que les femmes y sont, et ce que l'on en raconte, c'est-à-dire le récit, et du récit, les femmes étaient absentes. Voilà, parce que l'histoire était surtout, on racontait le récit des choses publiques, hein, essentiellement les guerres, les règnes, les créations, tout ce que vous voudrez, et la vie dans laquelle étaient les femmes, le privé, le quotidien, on n'en parlait pas du tout, ça ne comptait pas. Et par conséquent, faire surgir les femmes de cet immense continent sombre, noir, voilà ce que nous avons voulu faire, les rendre présentes, les révéler.
Isabelle Vernet, qui, sous la direction de Kantorov, chante la scène finale du martyr de Sainte-Cécile d'Ernest Chausson. Florence Delay, juste avant, Michèle Perrault, historienne, de dire combien ses travaux ont participé à révéler les femmes et à les sortir d'un continent noir dans lequel les avait plongées une certaine écriture de l'histoire faite par les hommes. Alors, ça met côte à côte deux révélations, la révélation divine par le divin et la révélation par la science, par l'histoire, par l'étude, par le discours et la prise de parole. Et il se trouve que vous appartenez aux deux avec ce texte, Florence Delay, Haute Couture, vous êtes du côté de la révélation divine. Et puis, par exemple, votre précédent livre ou le discours que vous avez fait en arrivant à l'Académie française, vous êtes aussi du côté des femmes qui prennent la parole. Est-ce que vous les faites se rejoindre ?
Je ne sais pas. Sûrement, si vous voulez, ce n'est pas quand je décris le martyre de ces jeunes saintes. C'est leur gloire que je célèbre, c'est, il me semble, c'est leur endurance, leur courage, leur merveilleuse ironie. Elles ne cessent d'insulter leur bourreau avec une...
Et moi j'entends le courage, l'endurance et la merveilleuse ironie d'historiennes comme Michèle Perrault, de femmes de votre génération ou d'autres générations qui peut-être ont su faire face à d'autres bourreaux, même si le terme est... fort, vous voyez ce que je veux dire? Ou pas?
Le terme est un peu fort, mais il n'y a pas de doute qu'il y a une sororité entre les femmes. Nous sommes quand même des sœurs. Et il y a une solidarité, une... On appelait la solidarité... solidité au XVIIe siècle.
C'est vrai ?
Oui.
On a bien oublié ça.
Hein ? On ne parlait pas, par exemple, de solidarité familiale, mais de solidité familiale. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument préserver. Cette solidité, plus importante peut-être même que l'égalité mal placée, en tout cas dans la grammaire.
Vous faites référence à l'écriture inclusive.
Ah oui, non, quel cauchemar.
Ah oui, vous dites ça à une charmante convaincue. C'est vrai, ça vous avait fait faire des cauchemars.
Ah oui, non, c'est terrible. Penser qu'on va faire appel à des pompières et pas à des pompiers, je veux dire.
Ça vous a écorché l'oreille.
Oui, je veux dire, c'est pas le génie de notre langue. Oui, il y a des féminins qui se sont faits avec beaucoup d'élégance, instituteurs, institutrices, aviateurs, avératrices, etc. Ceux qui ne se sont pas faits parce que ce sont des mots épicènes ou pour d'autres raisons, c'est pas très grave.
Alors vous le mettez où, le combat pour l'égalité qui ne serait pas mal placée ?
Ben, l'égalité des salaires. Ça me paraît très important. Des postes et des salaires. Des fonctions, des postes, des salaires.
Tout à l'heure, quand on évoquait l'épée, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, épée, l'Académie française, le...
Ah, épée !
Ouais, non, je sais pas.
Oui.
Et j'ai pensé à ce discours que vous avez fait, là aussi quand même, vous parliez d'ironie, mais est-ce que vous vous rappelez par quel mot commence votre discours à l'Académie française, Florence Delay ?
Ah, je m'en souviens très très bien.
Et alors, il n'y avait pas de la belle ironie là-dedans ?
Oui, et ça commençait en disant « Il me semble, mesdames, que je vous dois de la reconnaissance, autant qu'à vous, messieurs, qui êtes plus nombreux. » Il y avait trois femmes.
Comme elle est sereine, à Montpellier, cette jeune femme qui s'avance vers nous. Comme on aimerait être aussi serein à l'heure de la mort. Ses cheveux nattés en arrière dégagent son charmant visage et elle esquisse un pas presque dansé. Oui, on la sent bouger sous la longue jupe lilas. Le mouvement du corps, sous l'ampleur des étoffes, vient du petit plateau de fruits qu'elle nous tend. De toutes les saintes, elle porte l'ensemble qui me plaît le plus. Sans brocart ni broderie, à la fois simple et sophistiqué, à quatre couleurs entrechoquées, lilas de la jupe, bleu sombre du corselet, jaune citron des manches bouffantes, rouge cerise de la cape étole nouée sur l'épaule gauche, détail on l'a vu, affectionné du peintre. Il règne un grand silence autour d'elle, grande ombre dont elle sort apaisée. J'ai voulu croire un instant qu'elle nous tendait deux fruits, mais non. Sur le petit plateau de métal brillant, elle porte ses seins coupés. Dans les tableaux où il peint Jésus enfant se blessant d'une épine, sous le regard effrayé de sa mère qui voit soudain l'avenir, Zurbaran fusionne avec génie le temps de Nazareth et celui du Golgotha, la vie dans la maison familière et la mort sur la colline tragique. Dans ces tableaux de saintes et martyrs, la mort est derrière, la passion est franchie. Seul un détail s'en souvient, un instrument de torture tenu avec indifférence ou, dans le cas d'Agathe, ses petits seins arrachés. L'indifférence, Zurbaran y tient, pour que triomphe la paix de l'âme sur la barbarie. La beauté de sa robe concourt à cette paix. Dans les processions qui rythmaient la vie religieuse au siècle d'or, et dans les autos sacramentales qui célébraient à la fête Dieu le sacrement de l'Eucharistie, la splendeur des vêtements faisait partie du spectacle. Zurbaran, le silencieux, n'a cure du spectacle. Il choisit ses étoffes, ses couleurs, taille, coupe, dans le mystérieux souci de constituer une garde-robe céleste qui vaille pour l'éternité. Florence Delay, c'est un nouvel extrait de votre texte, de votre livre Haute Couture. Cette fois, on est avec Agathe et ses deux petits seins coupés que nous évoquions précédemment. Et la mort est derrière. Vous écrivez, la passion est franchie. Et si ce texte n'est pas pour vous une réflexion sur la manière de se présenter à la mort, avec quel visage, serein ou pas?
Certainement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est pour regarder la mort. Je souhaite bien sûr immensément mourir, ce n'allait fait pas dire dans l'allégresse, mais sans angoisse, ayant fini le chemin. Évidemment, mes sentiments chrétiens peut-être embellissent la mort, mais comme disait très clairement le père Pezril, un croyant est un incroyant qui croit. Je veux dire, c'est sans cesse à refaire, à recommencer, à croire ou à cesser. Mais oui, j'y pense beaucoup. Je vois le paysage se dépeupler autour de moi, des êtres chers en aller, et j'aimerais que le départ ait lieu le plus paisiblement possible.
Et vous voyez dans ces saintes une image de cette paisibilité, de cet état serein.
Mais c'est-à-dire ce que j'en vis, mais ce qui ne sera jamais mon cas, c'est leur joie.
Mais leur joie après la souffrance, après le martyr.
Et c'est comme si, mais vous comprenez, là, c'est pour ça qu'on est dans la légende, c'est comme si quelque chose ne souffrait pas en elle.
Dans leur visage peint, c'est sûr.
C'est très mystérieux, ça. Et en même temps, de temps en temps, ça m'évoquait le fanatisme.
Bon, j'avoue que j'y pense depuis le début de notre entretien, c'est-à-dire que en vous écoutant, je me dis, c'est un texte qui est écrit maintenant, qui est écrit dans les temps que nous traversons.
Oui, absolument.
Donc, encore une fois, les différents hasards dont nous avons parlé tout à l'heure, ou la manière d'être aimanté par des sujets, me fait dire que, en tout cas, il y a une résonance.
Absolument. Et j'étais là en cours de route de ce livre et je pensais au fanatisme, bien sûr, aux actes de violence et un peu fou, parce qu'il y a de la folie, il y a du déraisonnable, hein, dans cette façon parfois de courir au sacrifice. Je ne sais plus si vous vous rappelez ces deux sœurs qui s'enfuient de la campagne leur mère inquiète de leur désir de sacrifice, les envoie à la campagne et elles reviennent en ville pour se dénoncer. C'est quand même très, très frappant, cette course vers le... au nom de...
Au nom de...
Je laisse absent le nom de Dieu.
Il y a une autre absence qui clôt le livre et qui devient présente. C'est celle de votre mère. Et on a commencé avec sa présence et ses robes, puisque à la fin du texte, vous racontez que lors de son arrivée à Paris, elle a finalement le rêve que vous énonciez tout à l'heure, Florence Delay.
Oui.
Elle n'a qu'une seule robe.
Oui, pour sortir le soir.
Unique, elle ne change que son col blanc.
Voilà. Et je dois dire que je cherche une robe sur laquelle on puisse fixer un col blanc et le changer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je vois très bien.
C'est très difficile. Vous en avez une comme ça ?
Non, mais je suis sûre que si vous allez chez un couturier, vraiment y compris le plus modeste et savant des couturiers, il vous la fera sur mesure.
Eh bien, voilà.
Et vous la cherchez pour ?
En souvenir. Parce que je trouve... Vous savez, en vieillissant, Colette disait qu'il fallait toujours porter du blanc près du visage. Donc je m'y mets. Et là, l'histoire du col blanc qu'on change tous les jours, je trouve ça épatant. Mais bon, elle est venue faire ses études de philo à Paris. Elle était dans un couvent de religieuses. Et elle avait pour sortir, on l'a entendu ça, une unique robe noire dont elle changeait le col blanc.
Haute couture, c'est le titre de votre livre, Florence Delay. Il est publié aux éditions Gallimard dans la collection NRF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui ne vous fait pas peur ?
La lecture.
Par les temps qui courent, vers où porte votre regard ?
La campagne.
Par les temps qui courent, quel livre garder ouvert ?
Don Quichotte.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec Kader Attia. Et quand vous voulez, sur franceculture.fr ou en podcast au son ce soir, c'était Stéphane Touvenin, à la réalisation Olivier Guérin. Jeanne Aléos, Corinne Amat, Romain Debecq de Lièvre et Coppelia Ménardi m'aident à penser cette émission. Et quant à moi, je réponds @MarieRichaud sur Twitter.